Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Fini le suspense, le nouveau gouvernement de la RDC est enfin là. On compte 54 membres, dont 18 femmes. Des réactions à cette publication. Pour l'opposition, le profil des membres de cette équipe ne va pas répondre aux attentes de la population. Ce gouvernement ne reflète pas la cohésion nationale, pense le panel des experts de la société civile. La FEC, elle, salue l'entrée au gouvernement de quelques administrateurs du patronat congolais. Nord Kivu, près de 10 000 ménages des déplacés de guerre vivant à Kanyabayonga reçoivent depuis 5 jours une assistance en vivres. C'est un don du PAM et du Comité international de la Croix-Rouge. Et puis, l'invité de ce midi, Dieudonné Kalouba, avocat et ancien président de la Cour constitutionnelle. Il nous parle d'une formation qu'il vient d'animer à Lubumbashi au bénéfice des avocats sur initiative du barreau du Haut-Katanga. Madame, Messieurs, bonjour. Un nouveau gouvernement du deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi et le tout premier gouvernement de la première ministre Judith Suminwa a été publié tôt ce matin. Ce gouvernement compte 18 femmes, y compris la première ministre, ce qui représente une moyenne d'environ 32% pour la représentation féminine. Le seuil de représentativité indiqué par la constitution de la RDC est donc respecté. Certaines femmes, membres de ce gouvernement, sont des habituées de l'exécutif, comme Eve Bazaïba, alors que pour d'autres, à l'instar de Thérèse Ouamba, cela va être une première expérience. Parmi ces femmes, on note des politiques comme Acacia Bandoubola de l'UDPS, des membres de la société civile comme Léonie Kandolo et des technocrates comme Raissa Malou. Cynthia Bachizi nous en dit plus.
L'équipe Suminwa aligne ainsi 4 femmes au rang de ministre d'État. Il s'agit de Thérèse Ouamba Wagner aux affaires étrangères, Raissa Malou à l'éducation nationale, Eve Bazaïba à l'environnement, Acacia Badumbola aux affaires foncières. 6 femmes occupent des postes de ministres. Il s'agit de Chantal Mouadian-Vita aux droits humains, Safi Songoyan et la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, Nathalie Aziza aux affaires sociales et solidarité, Léonie Kandolo et la nouvelle ministre du genre, famille et enfants, Yolande Elébé est ministre de la culture et Noëlla Ayeganagato Nakuipon est la nouvelle ministre de la jeunesse et éveil patriotique. Sur les 4 ministères délégués, 2 sont occupés par les femmes. Stéphanie Mbombo devient ainsi la nouvelle ministre déléguée près l'environnement et Sambo Diata garde son portefeuille du ministère délégué près les affaires sociales et personnes vivant avec handicap. 5 femmes occupent des postes de vice-ministre, dont 2 sont reconduites. C'est notamment Onège Sélé qui garde son portefeuille comme vice-ministre des Finances et Wivine Moleka comme vice-ministre aux hydrocarbures. Les nouvelles figures sont Eugénie Tshiela Kamba qui est vice-ministre de l'Intérieur, Élisée Mokoamwana Maposo qui est vice-ministre du Budget. Figure de sport très connue, Bestine Yamba Kazadi est nommée vice-ministre des Affaires étrangères.
Par ailleurs, sachez que quelques nouvelles figures font leur entrée dans cette équipe gouvernementale qui va épauler la première ministre dans ses lourdes tâches. Nous vous proposons d'en découvrir quelques-unes, dont le nouveau vice-premier ministre de la Défense nationale et la nouvelle ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et de la francophonie. C'est à travers cette brève présentation que nous fait Jeff Ngoy.
Il s'appelle Guy Kabombo Mouadian-Vita, le nouveau vice-premier ministre et ministre de la Défense. Sexagénaire, il est député national et sénateur de la circonscription électorale de Tshilenge au Kasaï oriental. Cadre de l'UDPS, c'est un politique, écrivain et expert en bonne gouvernance. Juste après sa nomination, il publie déjà sur son compte X ce qui s'apparente à son plan d'action, notamment mettre un accent particulier sur les réformes structurelles ainsi que la reconquête des portions du territoire national sous occupation du Rwanda et ses supplétifs des M23. De la Défense nationale aux affaires étrangères, cette fois-ci avec la ministre d'État Kayukwamba Thérèse Wagner qui succède à Christophe Lutundula, anthropologue et politologue. C'est une ancienne fonctionnaire des Nations Unies et de Harvard aux États-Unis. C'est au milieu d'un épuisement post-pandémique de Covid-19 qu'elle entreprend ce qui semblerait une rupture non conventionnelle avec son travail onusien. Une maîtrise en administration publique à l'Harvard Kennedy School. D'après ses publications, une année à Harvard n'est pas vraiment une pause pour elle. Elle prend prend 6 mois supplémentaires de temps pur et imprévu. 18 mois plus tard, on peut lire sur son compte qu'elle est rechargée avec une boussole plus claire qui la guide.
Doudou Fouamba Likunde est le nouveau ministre congolais des Finances, originaire de la province de la Tchopo. Ce cadre du parti présidentiel UDPS est en poste avant sa nomination comme ministre des Finances à la DGRAD en qualité de directeur général adjoint en charge des questions techniques. Billy Valutumba nous présente son parcours dans ce portrait.
Comme éducation, Doudou Fouamba Likunde Libotai est universitaire, bac plus 5 en sciences de l'économie et de gestion. Il possède également un diplôme bac plus 3 en finances publiques obtenu à l'École nationale des finances et un autre diplôme d'études supérieures obtenu à l'École nationale des finances publiques de France. Doudou Fouamba Likunde intègre l'administration publique en 2010 comme agent au service de la chaîne de la dépense au ministère des finances. Ici commence une carrière élogieuse, il gravit les échelons. Il assume les fonctions d'assistant technique du directeur du Trésor et de l'ordonnancement au même ministère. Toujours dans sa carrière, l'actuel ministre des Finances a assuré les fonctions de directeur financier du Fonds forestier national et d'administrateur au conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Cadre de l'UDPS, il est approché brièvement au cabinet du chef de l'État, précisément à la coordination administrative du service personnel. C'est en 2021 qu'il est nommé au poste de directeur général adjoint en charge des questions techniques. Sa dernière apparition publique date de ce mois lors du vernissage de son ouvrage intitulé « La réforme des finances publiques et l'administration en RDC, enjeu d'un État moderne ».
Au chapitre des réactions à la publication de ce gouvernement, l'opposition estime que le profil des membres de cette équipe ne va pas répondre aux attentes de la population telles que l'eau, l'électricité, l'insécurité dans l'est du pays et les koulouna dans les centres urbains. Propos de Hervé Diakese, porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il s'est exprimé cet avant-midi sur Radio Kapi. Hervé Diakese, joint par Paul Matendo Mayamba.
En guise de gouvernement, c'est plus le remaniement du dernier gouvernement Sama. La première ministre avait voulu un gouvernement plutôt au profil technocrate, ça n'a pas réussi. Elle voulait un nombre resserré de ministres, mais on est quasiment dans le même nombre. Donc tout ça est cosmétique. Nous nous attendions à un gouvernement qui s'occupe d'urgence des problèmes sociaux de notre population. Le problème de l'emploi, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'électricité, les problèmes des routes, les problèmes de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national, la guerre dans la partie est de notre pays, mais les coulounas sur l'étendue des centres urbains. Nous avons un peuple abandonné et ce n'est pas ce profil ici qui va changer quelque chose. La remise en place d'un état de droit, mais surtout le droit de l'opposition de manifester et d'organiser ses activités librement.
Autre réaction, c'est celle du panel des experts de la société civile. Il estime que ce gouvernement ne reflète pas la cohésion nationale alors qu'on en a besoin. C'est ce que pense Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur de cette structure. Il dit craindre que ce gouvernement ne soit pas en mesure de répondre aux attentes de la population, telles que le paiement des salaires des fonctionnaires dans le délai, la fourniture en eau et électricité. Dieudonné Mouchagaloussa l'a dit à Paul Matendo Mayamba.
Il est vraiment à craindre que ce gouvernement ne sera pas en mesure de répondre aux attentes de la population. L'élément négatif également, il s'agit des combinaisons des hommes politiques pour arriver à ce gouvernement. Et c'est un gouvernement qui ne reflète pas la cohésion nationale. C'est pas parce que la société civile n'y est pas représentée, peut-être seulement avec des postes, que nous pouvons le dire. L'élément peut-être aussi positif qu'il faut saluer, c'est le départ des ministres des Finances avec tout ce qu'on a appris des détournements. Mais également, surtout en toile de fond, on a comme l'impression que c'est un gouvernement qui jusque-là, il n'y a aucun programme, il n'y a aucun plan. On pensait qu'on va faire d'abord un plan de gouvernement avant, mais nous avons comme l'impression que c'est maintenant qu'on va définir un programme du gouvernement.
Réaction aussi de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, salue l'entrée au gouvernement de quelques administrateurs du patronat congolais. Madame Eliane Mukeni dit que c'est une considération du monde économique congolais. Elle espère que le choix porté sur ces acteurs de la sphère économique et entrepreneuriale va favoriser des projets communs portés par la FEC. Écoutez plutôt Eliane Mukeni, deuxième vice-président de la FEC, au micro de Cynthia Bachizi.
L'inclusion des acteurs économiques au gouvernement est un signe de considération du monde économique. Et cela prouve la volonté du Premier ministre de travailler de concert avec la FEC. Je vais illustrer ça par justement la nomination de deux personnes membres de la FEC choisies. La présence de M. Mpambia nous réconforte grâce à son expérience d'entrepreneur dans les secteurs publicitaires et marketing. Tout simplement parce qu'il pourra réaliser plusieurs rêves et projets de la FEC, notamment en ce qui concerne le tourisme local, qui est quasi inexistant en RDC. Et je suis sûre et certaine que cela fera partie de son plan d'action. La présence de M. Ouattoum est une grande bénédiction, je dirais, pour la FEC. Et nous sommes certains que M. Ouattoum va s'appuyer sur nous pour aller de l'avant.
Par ailleurs, la reconquête des entités occupées par les rebelles, le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu et le retour des populations déplacées dans leurs entités, bref, le retour de la paix, voilà en quoi se résument les attentes de la population meurtrie du Nord-Kivu vis-à-vis du nouveau gouvernement souminois. Un gouvernement qui a plusieurs défis à relever et qui devrait travailler d'arrache-pied, recommande la population. Des détails dans ce reportage de Denise Lukeso.
Bien que pléthorique, la société civile du Nord Kivu salue ce nouveau gouvernement qui a une représentativité remarquable des femmes. Elle dit attendre cette nouvelle équipe à l'œuvre. La gestion de la crise sécuritaire, humanitaire et économique reste une priorité pour le Nord Kivu, mais avec un accent plus sur le retour de la paix. Marion Ngavo de la société civile de Goma.
La population attend des nouveaux ministres et surtout de l'intérieur, de la défense, de la justice et des affaires humanitaires. Des actions d'urgence pour conquérir les entités occupées puissent mettre hors d'état de nuire tous les groupes rebelles, mais aussi que les personnes déplacées regagnent leurs entités, casser immédiatement l'état de siège.
La gestion urgente de la crise économique va aider à booster le développement de la province. C'est l'attente de la jeunesse du Nord Kivu, dit Trésor Katoto, du conseil urbain de la jeunesse de Goma.
La population du Nord Kivu est tellement travailleuse, a seulement besoin de la paix pour booster elle-même son développement et son économie. Que cette asphyxie prenne fin.
Notons que quatre fils du Nord Kivu, dont deux nouvelles figures, font leur entrée. Chabani Luko Jackman, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Mwamindeze Jean-Baptiste, nommé vice-ministre des Affaires coutumières. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Dans les rues de Kinshasa, bien évidemment, l'actualité reste dominée par la sortie du gouvernement souminois. Du côté de la population, certains estiment qu'il ne pourra rien faire d'intéressant puisque selon eux, c'est juste un partage de postes qui a eu lieu. D'autres, par contre, comptent sur cette nouvelle équipe pour notamment voir des améliorations dans le social et la vie du Congolais en général. Ils se sont exprimés au micro de John Chibwabwa.
Nous espérons que vous allez nous donner ce que nous attendons, donc avoir une vie sociale normale, vivre comme dans d'autres états.
Les denrées alimentaires, les prix des transports, l'accessibilité aux soins de santé, tout est tellement cher. Si le gouvernement peut s'atteler sur ces questions-là, ça pourrait tant soit peu diminuer les problèmes du peuple congolais.
Avec ce gouvernement, il n'y aura pas du tout de changement. Parce que nous sommes en train de voir qu'il y a de mêmes figures qui se renouvellent toujours. Donc, quant à moi, il y aura rien de changement.
Nous attendons de bonnes choses, mais je ne sais pas s'ils vont réussir, hein, parce qu'ils n'ont rien fait. Ça nous a pris beaucoup du temps pour rien. Ils ont partagé leur gâteau, donc c'est ça en fait.
Nous attendons qu'ils fassent un bon travail, que ce soit au bénéfice de nous tous, quoi.
Nous attendons quelques changements sociaux et nous espérons quelque chose de bien.
Donc nous ne voulons plus souffrir. Nous souffrons énormément. Que ce nouveau gouvernement prenne soin de son peuple, soit à l'écoute de la voix du peuple, parce que c'est pour nous qu'ils sont là. Donc ils doivent vraiment travailler pour nous et non pour leur poche et leur famille.
Ils n'ont rien fait. Ils ont bien partagé leur poste. C'est ce qu'ils ont fait. Non, nous, on n'est pas là.
Retournons au Nord Kivu. Près de 10 000 ménages des déplacés de guerre vivant à Kanyabayonga, commune rurale du territoire de Lubero, reçoivent depuis 5 jours une assistance en vivres. Cette assistance du Programme alimentaire mondial PAM et du Comité international de la Croix-Rouge CICR est composée essentiellement de la farine de maïs, haricots, huile végétale et du sel. Le président du site des déplacés de Kanyabayonga déclare que cette assistance bénéficie aux premiers déplacés arrivés dans la zone depuis décembre dernier. Richard Kalou Kaloumé plaide ainsi pour une nouvelle assistance aux quelques 20 000 autres ménages arrivés à Kanyabayonga depuis avril dernier. Il est joint par André Kitenge.
Le CICR a lancé la distribution de vivres à Kanyabayonga, précisément dans la partie Rutshuru. Il y a aussi PAM qui a fini la distribution de vivres dans la partie Kanyabayonga-Lubero. Au niveau de Kanyabayonga-Lubero, les PAM avaient enregistré 12 004 ménages qui ont été bénéficiaires de cette assistance. Et la partie Kanyabayonga-Rutshuru, le CICR avait enregistré 9 717 ménages qui sont en train de bénéficier maintenant de cette assistance. Il s'agit des déplacés qui étaient venus de Buito à partir du 6 mars. C'est là qu'ils sont venus à partir du mois d'avril. Ils ne sont pas des bénéficiaires directs de l'assistance que les CICR et les PAM ont distribué dans cette partie de Kanyabayonga. C'est pourquoi on est en train de solliciter notre gouvernement d'avoir pitié de nous les déplacés, parce que si on est là, c'est parce qu'on n'a pas voulu rester dans les zones qui sont occupées par les rebelles du M23.
Richard Kaloumé indique également que le CICR a lancé depuis avril, le 1er avril dernier, deux projets de gratuité de soins au profit de ménages, des déplacés et des familles d'accueil vivant à Kanyabayonga. Pendant ce temps, les combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 s'intensifient ce mercredi dans la localité de Lusoa. Nous sommes à environ 20 km de Kanyabayonga sur l'axe Kikuku, territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, l'armée congolaise continue de pilonner les positions des rebelles M23 autour de la colline Ndumba dans le sud du territoire de Masisi.
Actualité internationale.
Jour de vote en Afrique du Sud. Depuis 7 heures ce matin, plus de 23 000 bureaux ont ouvert dans le pays pour permettre à plus de 27 millions d'électeurs de choisir leurs parlementaires qui éliront ensuite un président et leurs conseillers régionaux. Une élection qui pourrait représenter un tournant pour l'Afrique du Sud si le Parti de la Libération, le Congrès national africain ANC, venait à perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme le président les sondages.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Dieudonné Kalouba, ancien président de la Cour constitutionnelle. Il exerce pour l'instant comme avocat. À l'initiative du barreau du Haut-Katanga, il a animé le week-end passé à Lubumbashi une formation au bénéfice des avocats. En marge de cette rencontre, il s'est entretenu avec Jean Gandou.
Dieudonné Kalouba, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Comment appréciez-vous l'initiative du barreau du Haut-Katanga en organisant ces assises?
Magnifique. C'est une initiative, à mon avis, qu'on devrait élargir à tous les autres barreaux du pays.
En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez dit aux avocats du Haut-Katanga?
La constitution de la République démocratique du Congo a spécialisé les juridictions et a créé un ordre de juridictions administratives. On a déjà installé le Conseil d'État. On n'a pas encore installé les deux autres juridictions qui vont venir notamment la Cour administrative d'appel et le tribunal administratif. Mais il est bon que les avocats qui vont intervenir devant ces juridictions sachent au départ quelles seront les compétences de ces juridictions, quelles seront les voies de recours à y exercer, quels comportements observer devant ces juridictions.
Vous avez la chance ou l'opportunité d'avoir été dans la magistrature et dans l'avocature et vous êtes professeur. Si nous rassemblons tout ça, d'après vous, en ce jour, comment se porte la justice?
Pour moi, globalement, la justice ne se porte pas bien, mais il ne faut pas non plus être extrémiste, parce que dans une décision de justice, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et généralement, on écoute beaucoup les perdants. C'est eux qui se plaignent à longueur de journée, qui font des plaintes contre les magistrats. On écoute très peu les gagnants des procès. Ce qui signifie que si on veut être objectif, il faut faire une étude statistique pour voir dans combien de cas le droit a été bien dit et dans combien de cas le droit a été mal dit. Moi, je n'ai pas l'impression que globalement, tout soit mauvais. En réalité, si vous remarquez bien, ce qui est mauvais dans la justice congolaise, c'est souvent des dossiers qui opposent des grandes fortunes. Mais quand deux roturiers se battent peut-être pour un pain ou vélo, souvent le droit est bien dit. Donc, la question de corruption ne se pose pas. Mais les dossiers aussi qui posent problème sont souvent des questions à caractère politique. Mais les restes du droit, il n'y a pas de critique.
Donc, il y en a bien, quand on est dans le monde de l'immobilier, créer.
Mais là, vous êtes dans le monde des possédants, c'est-à-dire de ceux qui ont déjà quelque chose.
Non, mais il y en a
ceux
qui veulent
ravir à ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont peu. C'est dans ce monde-là. Il y a un réseau de conservateurs, de mafieux, entre guillemets, de commissionnaires judiciaires et tout ça. Ça, je suis tout à fait au courant. Au-delà de ça, je reste toujours très relatif sur la question, parce que personnellement, mon expérience d'avocat, de juge, de professeur m'a permis de voir qu'il y a toujours de bons magistrats partout, mais on n'en parle pas beaucoup. Et curieusement, on élève souvent le plus mauvais à des fonctions qui ne méritent pas. C'est vraiment la vraie tare de la magistrature, peut-être à ce niveau-là. C'est souvent les moins bons qui deviennent des chefs, souvent par des moyens rétors, et maintenant qui dirigent les meilleurs. Quand la pyramide est renversée, souvent ça pose problème.
Alors, quelle pourrait être l'attitude que les plaideurs doivent avoir devant la réticence des uns de saisir la justice au motif que cette justice ne serait pas juste, entre guillemets, et la témérité des autres qui voudraient absolument gagner les procès, quoi qu'il en coûte, voilà, quels que soient les moyens qui pourraient être utilisés.
Oui, mais ça, c'est le paradoxe normal de la vie. Moi, j'ai toujours dit que la vie, c'est un conflit permanent. Dès la naissance jusqu'à la mort, c'est le conflit entre le bien et le mal. Et donc, je suggérerais aux plaideurs de continuer toujours à saisir le juge, à les pousser vers le bien, à les pousser vers le bon, le juste, et tout ça. Donc, l'autre hypothèse est une hypothèse de défaite collective, c'est-à-dire, on dit, bon, on n'a plus rien à faire, laissons faire. Je suis plutôt un optimiste de nature, je dis, donc, continuons. Tout le monde n'est pas pourri dans la magistrature. Curieusement, on épingle souvent quelques cas saillants, peut-être parce qu'ils sont scandaleux, de quelques magistrats, mais les bons magistrats, il y en a beaucoup dans ce pays. On en parle très peu.
D'après vous, quelle pourrait être la panacée pour que la justice redevienne vraiment juste et qu'elle élève la nation?
Pour moi, pour que la justice élève une nation, c'est pas très compliqué. Il faut que les juges prennent conscience qu'il s'agit d'un attribut divin qu'ils exercent. Dire le droit, c'est prendre la place de Dieu, parce que Dieu seul peut juger. Alors si un être humain a la capacité de juger, c'est qu'il s'élève au niveau de Dieu. Ça lui demande donc une élévation spirituelle, un niveau... C'est la seule solution. Un homme ordinaire ne peut pas être juge. Non. Un homme qui est préoccupé par des problèmes de ventre, de maison et tout ça, ne peut pas être juge. Moi, je dis toujours, c'est une blague. La justice, c'est une affaire de nobles, et les nobles, c'est des gens qui ont vaincu les vicissitudes de la vie. Vous voyez, par exemple, le système américain, les juges là-bas sont des avocats qui ont fait au moins 10 ans. Et bien, alors, c'est-à-dire, il faut avoir éliminé certains problèmes pour être en mesure de juger les autres humains.
Dieudonné Kalouba, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
L'ancien président de la Cour constitutionnelle répondait aux questions de Jean Gandou. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Tikota Chivueta, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.